Vincennes des Prés est à Marseille. Elle est à Marseille, invitée par la semaine de la pop philosophie, où elle donnera une conférence vendredi 24 octobre à 19h. PET philosophie, PET scanning. Une conférence au Musée d'histoire naturelle de Marseille, Palais Longchamp, avec Robert Maggiori, philosophe et journaliste à Libération. Vinciane Després est philosophe des sciences et éthologue. De nombreux ouvrages publiés aux éditions Les Empêcheurs de penser en rond. Naissance d'une théorie éthologique, la danse du cratérope écaillé. Ces émotions qui nous fabriquent, ethnopsychologie de l'authenticité. Quand le loup habitera avec l'agneau, le seuil, les empêcheurs de penser en rond. Ou encore, Hans, le cheval qui savait compter. Et puis, d'autres ouvrages, en collaboration notamment avec Isabelle Stengers, Les faiseuses d'histoire, que font les femmes à la pensée, aux éditions La Découverte. Bonjour Vinciane Després.
Bonjour.
Nicolas Ringer est aussi avec nous. Vous l'entendez régulièrement sur les ondes de Radio Grenouille, notamment dans l'émission Critique, et puis dans Temps Libre. Bonjour Nicolas.
Bonjour.
Alors Vinciane Després, je disais philosophe des sciences et éthologue. Et peut-être qu'on pourrait s'arrêter sur la philosophie des sciences. Vous avez écrit notamment un livre avec Isabelle Stengers, qui est également une philosophe des sciences. Et puis, il y a un philosophe très important aujourd'hui, Bruno Latour aussi. Peut-être une première question serait celle d'essayer de comprendre ensemble pourquoi la philosophie des sciences aujourd'hui prend autant d'importance et pourquoi elle est importante, pourquoi est-elle aussi lue aujourd'hui, la philosophie des sciences, pourquoi c'est important selon vous?
Alors, je pourrais peut-être reprendre une proposition de Bruno Latour notamment, qui est de constater qu'un monde qu'on pensait un monde du grand partage, c'est-à-dire un monde où d'un côté il y aurait eu des objets scientifiques clairement identifiés comme relevant de la nature, et de l'autre côté il y aurait eu des objets humains, hein, des êtres qui font société, qui sont étudiés d'ailleurs par les sciences sociales ou par les sciences humaines, des êtres qui font de la politique et qui sont objets d'un discours politique, que ce monde qui aurait été normalement, enfin dont on pensait qu'il était bien séparé, clairement séparé, la loi de la nature d'un côté, les lois des sociétés humaines de l'autre, eh bien on se rend compte qu'en fait ce monde n'a jamais été séparé, d'abord, et qu'il est encore moins qu'il ne l'a jamais été. Et pourquoi est-ce qu'il est encore moins? Alors on pourrait prendre, est-ce que le trou dans la couche d'ozone, est-ce que c'est un objet de nature, ou est-ce que c'est un objet de culture, ou de société, ou un objet politique? Ben, on se rend bien compte que toutes les controverses autour du climat indique bien, intensifie bien justement ce brouillage qui est sans cesse en train de s'opérer et qui fait que on ne peut plus parler d'objets de nature sans dire qu'ils sont en même temps des objets sociaux et des objets politiques. Et de même, les objets politiques et les objets sociaux, d'une certaine manière, relèveraient eux-mêmes d'une certaine forme d'organisation dans le cosmos, on pourrait dire. Est-ce que l'organisation dans le cosmos, c'est la nature ou est-ce que c'est la société ? Et alors c'est une façon d'entrer dans le problème. Et ce constat, je pense qu'il est, de plus en plus fait partie de la vie de tout le monde. De savoir que d'une certaine manière, le fait que la Terre soit ronde, de découvrir que la Terre soit ronde n'affectait pas énormément la vie des gens. Par contre, ce qui se passe au niveau du climat, du trou de la couche d'ozone, du sort des animaux, etc., c'est devenu une préoccupation pour tous, c'est une préoccupation politique d'un monde qui est de plus en plus commun.
Ça veut dire que c'est penser aussi le fait que les objets sont construits d'une certaine manière.
Alors oui, les objets, en fait, en tout cas, ça dépend selon quel type de mode d'existence vous allez lui dire qui va importer. Si vous considérez par exemple une montagne, ben, vous considérez la montagne en tant qu'elle existe, en tant qu'elle perdure dans l'être. Là, je reprends un peu les propos de Bruno Latour. Bon, mais à ce moment-là, c'est un problème différent. En revanche, si vous prenez la montagne telle que vous allez devoir la gravir parce que vous êtes randonneur, ben, vous vous rendez compte que c'est comme randonneur, ben, vous avez besoin d'une carte. Vous aurez des balises, vous aurez des cairns, vous aurez quantité de choses qui font que cette montagne, elle est une montagne qui est articulée à tout un ensemble de projets humains, dont des projets scientifiques de cartographie, des projets aussi de bergers qui font paître les moutons, qui entrent en controverse avec des projets d'écologistes qui voudraient faire revenir le loup. Et voilà cette montagne. Alors, est-ce qu'elle est naturelle ou construite? On se rend compte que ce n'est plus la bonne distinction et la bonne dichotomie. Et que construire, ben, ça veut dire simplement, enfin, ou pas si simplement que ça, mais que ça veut dire, en fait, faire advenir à l'existence sur un certain mode.
Nicolas?
Oui, cette articulation, elle n'est pas nécessairement irénique. Alors, on va revenir un peu plus tard dans l'émission sur la question du loup et des moutons ou des agneaux. Mais l'autre chose, c'est que quelque chose que vous partagez avec Bruno Latour et Isabelle Stenger, c'est cette idée, au fond, qu'on est en situation de guerre et qu'il faut proposer des dispositifs diplomatiques de discussion, formuler des propositions de paix. Alors, Bruno Latour et Isabelle Stenger le disent notamment à propos de, justement, du changement climatique ou de l'anthropocène, disent qu'il faut passer de la guerre totale à la guerre ouverte. Vous, c'est notamment dans les rapports entre scientifiques, entre sciences humaines et sociales d'un côté, sciences dures de l'autre. En quoi c'est important cette idée de, au fond, que nous sommes, enfin, qu'il faut de la diplomatie et donc du fait que nous sommes en guerre?
Alors, bon, je veux dire, ça, c'est d'un côté, il y a le travail d'Isabelle Stenger et de Bruno Latour, qui est un travail qui concerne plutôt, en effet, le devenir, dans quel monde allons-nous vivre, et le devenir dans un monde extrêmement menacé, dans un monde où la barbarie pourrait s'installer, hein, c'est là un des titres auxquels Isabelle Stenger se réfère. Alors, moi, j'ai pris le problème par un autre bout. Je me suis peu impliquée dans les problèmes de la climatologie, dans les problèmes de l'anthropocène, etc. Moi, ce qui m'a intéressée, c'était plutôt de voir, tiens, qu'est-ce que ça change quand des scientifiques se mettent à étudier un animal? Qu'est-ce que ça change pour nous? Et là, on peut en effet penser que les scientifiques jouent également le rôle de diplomates, au même titre d'ailleurs que ce que je pourrais dire des anthropologues qui reviennent d'autres cultures avec cette, je vais reprendre la définition des Viveros de Castro, cet anthropologue absolument fabuleux qu'est Eduardo Vivero de Castro, qui dit que finalement l'anthropologie c'est une entreprise de décolonisation de la pensée. Et bien, d'une certaine manière, quand les éthologistes ou les primatologues reviennent du terrain. Alors, est-ce qu'ils font une décolonisation de la pensée? C'est plus que probable, certains d'entre eux. Ils font peut-être une dépéciation de la pensée. Je pense donc que s'il y a décolonisation, il y a peut-être aussi le fait d'accepter, de sortir grâce à leur travail de cette idée que l'homme occupe une place centrale et que cette place lui est due et qu'elle est tout à fait légitime, etc., etc., etc. Et donc moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir comment ces scientifiques étudiant les animaux et les étudiant de manière extrêmement intéressante, donc je ne parle pas de tous les scientifiques, je parle de ceux qui font des choses intéressantes avec les animaux, vont revenir en nous proposant de nouveaux savoirs, certes, mais surtout aussi de nouvelles identités pour les animaux. Et ces nouvelles identités nous obligeraient alors à envisager d'autres modes collectifs de vie avec eux. Et là, je pense qu'il y a un vrai travail de diplomatie, exactement comme vous le dites.
Mais alors, un des aspects, c'est précisément qu'une partie de la communauté scientifique qui travaille sur les animaux utilise des méthodes, ou utilisait des méthodes qui relèvent plus de la torture que de la relation.
Il y a eu des scientifiques qui ont fait des choses qui apparaissaient, en plus c'est ça qui est intéressant, qui apparaissaient comme tout à fait normales à l'époque. Alors, tout le monde n'a pas fait des choses, bon, on peut prendre évidemment l'extrême, c'est Harry Harlow qui séparait des petits rhésus macaques de leur mère pour étudier. Il voulait étudier l'amour, alors bon, ben, comment on peut étudier l'amour en laboratoire, disait-il, on ne peut pas le mesurer, ben, on va mesurer le fait de priver. Les privations, ça c'est facile à étudier, vous privez un petit singe d'amour et puis vous voyez l'état pathologique dans lequel vous arrivez à le mettre et vous pouvez compter les morsures qu'il s'inflige, les conduites pathologiques, la totale absence de relation qui émerge à la suite de ce genre de torture. Ça c'est le cas extrême et je ne pourrais pas dire que ça c'était c'était normal parce qu'on enseignait ça dans les universités comme si ça allait de soi. On pouvait faire des choses comme ça, une belle expérience qui nous apprend ce que c'est que l'amour, en effet. Et donc là, il y avait quand même des malaises. Et il y a certaines personnes qui, d'entrée de jeu, se sont révoltées et même révulsées à l'idée qu'on pouvait faire des choses comme ça aux animaux. Mais je connais des tas de recherches où les choses sont un tout petit peu plus insidieuses et où, aujourd'hui, ça qui m'intéresse, Nous trouvons ça totalement anormal. Je pense par exemple des recherches qui ont eu lieu dans les années 60 par des primatologues qui sont très connus, notamment Hans Kummer, qui est un primatologue extrêmement connu. Eh bien, Hans Kummer, par exemple, a fait quelque chose qui, aujourd'hui, nous paraît très, très bizarre et très étonnant. C'est qu'il avait des babouins olives et des babouins je ne sais plus, je crois que c'est des cynocéphales, qui ont des modes d'organisation, par exemple, entre eux, tout à fait différents. Ben, il se disait, mais tiens, qu'est-ce qui se passe si je prends un de chez les uns et que je le mets chez les autres, par exemple. Allez, mettons, prenons, si on a des babouins, je crois que le cas de figure le plus intéressant, c'est, enfin, le plus intéressant que lui trouvait le plus intéressant, c'était les babouins à Madrias ont une organisation polygyne, c'est-à-dire un mâle vit avec plusieurs femelles, et les babouins olives ont une organisation de groupe mixte. Ben, si on transfère un babouin habitué à Madrias à vivre avec un groupe de femelles dans un groupe mixte, comment va-t-il se comporter? Et aujourd'hui, ça nous paraît absolument aberrant. Comment est-ce qu'on peut faire intrusion comme ça? Qu'est-ce qu'on peut espérer apprendre en considérant les animaux un peu comme on considérerait des molécules chimiques, parce que c'est vraiment ça. Si je transfère une molécule chimique de X vers Y, qu'est-ce qui va arriver comme... Et pourtant, ça ne soulève rien à l'époque. Et on est dans les années 60-70. Et ça, c'est quelque chose qui a formidablement changé, où des scientifiques aujourd'hui hésiteraient à faire cela. Alors, je ne dis pas qu'ils n'ont pas encore des idées un peu saugrenues, mais visiblement, d'abord, il y a des mécanismes de contrôle, il y a des pressions publiques, et je crois que les scientifiques eux-mêmes ont été modifiés par quelques années, en fait, où on a commencé à penser, mais peut-être qu'on ne doit plus faire ce genre de choses.
Alors, ce qui est très intéressant dans ces deux exemples que vous soulevez, c'est qu'au fond, par rapport à l'étude première qui est de voir quelle réponse donneraient les animaux par rapport à la question de l'amour, d'une certaine manière, et ça, vous le relevez, c'est-à-dire, est-on si sûr que la réaction de l'animal est bien une réponse à l'égard de la question de l'amour, ou est-ce que, finalement, la réponse de l'animal n'est pas plutôt une réaction par rapport à l'agression qui lui est faite? C'est donc que, du coup, vous interrogez la relation qui est existe entre, là pour le coup, le chercheur et l'animal, et donc bien la relation entre l'homme et l'animal, et vous nous invitez à quitter finalement le règne ou le régime de l'être, au sens de ce qu'est un homme d'un côté et ce qu'est un animal de l'autre. Au fond, vous nous dites, ce n'est pas très intéressant ça, savoir de ce qu'est l'homme ou ce qu'est l'animal, mais ce qui est le plus intéressant, c'est de comprendre les relations qui existent entre l'homme et l'animal. Du coup, on ouvre là quelque chose qui est que, eh bien, on devient indéfini, enfin, d'une certaine manière. C'est-à-dire, nous n'avons plus rien en propre, mais alors l'homme n'a plus rien en propre, l'animal non plus n'a plus rien en propre.
Alors, d'abord, j'adore la façon dont vous avez posé la question, et là, je suis tout à fait sincère, je ne suis pas en train d'ironiser. Vous avez mélangé, et vous l'avez très très bien fait, vous avez utilisé deux termes, et vous les avez utilisés exactement là où il le fallait, c'est-à-dire le terme réponse et le terme réaction. J'ai été attentive à la façon dont vous les avez utilisés. Quand vous avez utilisé réaction, vous étiez dans une perspective où l'animal était sommé de produire un comportement pour un observateur. Et quand vous avez utilisé le mot réponse, vous l'avez utilisé clairement dans le sens de l'animal est en train de se demander qu'est-ce qu'il me veut celui-là et qu'est-ce que je vais faire pour répondre à son attente. Ce qui est très différent du terme réaction. Et donc, on a déjà un cas de figure où on voit déjà rien que le vocabulaire qu'on utilise est en train de raconter tout un pan de notre histoire scientifique avec les animaux. Alors, la question du propre de l'homme, ça c'est assez intéressant. C'est que pour la semaine passée, parce que je préparais un exposé sur la différence entre l'homme et l'animal, je suis allée sur Internet, ce que j'avais jamais... Enfin, je suis déjà été sur Internet, bien entendu, mais pour poser une question, j'ai été taper simplement le mot « différence homme-animal ». Et je suis tombée... D'abord, j'ai fait « différence entre homme-animal » et j'ai eu 878 000 réponses possibles. Et puis, je me suis dit « tiens, si j'enlève le mot « entre », qui est quand même superflu dans cette affaire-là, je suis tombée sur 17 millions ou quelque chose comme ça. Et puis, « différence radicale », il me restait quand même un bon 470 000 et quelques. Donc, la semaine passée, moi qui croyais que normalement, on avait enfin abandonné ce genre de préoccupation, pas du tout. On n'a pas abandonné ce genre de préoccupation. Et quand je suis allée voir sur les sites, alors là, j'étais absolument affligée. Et après la première page, j'ai cessé parce que mon degré de tolérance à la sottise étant relativement limitée et l'est de plus en plus là, gênant, je me suis dit, vaut mieux que j'arrête, ça va mal finir cette histoire. Alors, ce que vous soulevez, c'est peut-être la manière dont on... En fait, je me suis rendu compte que peut-être ce qui reste problématique aussi, c'est la manière dont on soulève la question. Alors, le propre de l'homme, moi, ça ne m'a jamais intéressé. C'est quelque chose, c'est des problèmes de blanchisserie. Limitons ça. Alors, le propre de l'animal, évidemment, ne m'intéresse encore moins. Il n'y a pas une moins ou de plus. Simplement, c'est un problème qui est tellement mal posé. Pourquoi? Parce qu'on va mettre l'homme d'un côté, et l'animal de l'autre. Alors, quel animal ? Alors, est-ce qu'on parle d'une tique ? Est-ce qu'on parle d'une araignée ? Est-ce qu'on parle d'un babouin ? Est-ce qu'on parle d'un bonobo ? Donc, ça veut dire qu'on a mis dans le même sac une espèce de catégorie qui n'est forgée, finalement, que pour faire contraste avec l'espèce humaine. Ça veut dire que pour... En fait, on voit tout l'enjeu de cette catégorisation, c'est faire contraste avec l'espèce humaine pour permettre d'affirmer, et qui repose sur l'exceptionnalisme humain, sur l'exception humaine, en quelque sorte. Et donc, ça, c'est déjà le premier problème. Et puis, on se rend compte que si on creuse de ce côté-là, peut-être que le propre de l'homme, finalement, ce n'est pas une très bonne idée non plus, parce que si on dit que le propre de l'homme, c'est ceci ou cela, alors, je prends une expérience où ça m'est sauté aux yeux, si j'ai deux minutes pour parler de cette expérience, c'est que j'ai repris l'analyse des expériences qui est tentée de démontrer que les chimpanzés pourraient éventuellement être dotés de la même compétence que les humains, qui est une compétence de pouvoir lire les intentions d'autrui. Alors, c'est une compétence qui s'appelle être mentaliste, hein, un peu comme dans la série Le Mentaliste, mais c'est-à-dire que vous savez que ce qu'il y a dans la tête des autres, c'est pas la même chose que ce qu'il y a dans votre tête. C'est une compétence assez sophistiquée, sur laquelle reposent bien d'autres compétences, qui est l'empathie, et bon, bref. Alors, je regarde un petit peu, je suis allée observer un peu dans les écrits comment on avait monté tout ça, et je trouve que c'était très intéressant, parce que ce sont des belles expériences. Hein. On essaye de voir, tiens, mais si le chimpanzé est capable de mentir, ça veut dire qu'il sait qu'il y a dans la tête de quelqu'un d'autre autre chose que dans sa propre tête, parce que sinon, il ne mentirait pas. Et puis, je me suis rendu compte que, finalement, ce qu'on disait, c'est que, finalement, le chimpanzé avait, d'une certaine manière, la même compétence que les humains, et donc il est en train de monter au panthéon des êtres intentionnels. Et puis quand on analyse un peu et qu'on réfléchit, on se dit, mais tout compte fait, premier point, est-ce que c'est tous les humains ? On découvre que les enfants, en fait, dans les expériences, n'acquièrent cette compétence que vers 4-5 ans. Ah bon, les chimpanzés font... Deux, on découvre que tous les chimpanzés ne réussissent pas cette expérience, que c'est comme pour le langage et pour beaucoup de choses, comme pour le test de la reconnaissance de soi dans le miroir. Et puis vous découvrez que les enfants, en fait, deviennent intentionnels à 4-5 ans, mais qu'en fait, maintenant, on est en train de découvrir avec de nouvelles expériences que c'est la façon dont on pose la question qui permet de déterminer, mais que si on pose la question autrement, des bébés déjà très jeunes deviennent intentionnels. Ah, mais voilà encore une autre nouvelle. Donc ça veut dire que c'est quand même une compétence qui est extrêmement relative aux dispositifs expérimentaux. Et puis vous allez un peu plus loin, vous reposez la question des chimpanzés, et puis vous dites, mais finalement, qu'est-ce qu'ils apprennent, ces chimpanzés ? Est-ce que ce sont des chimpanzés en tant que tels ? Et puis vous avez une très jolie remarque du spécialiste des chimpanzés, Matsuzawa, qui dit à un moment donné, finalement, tout ce que ces singes apprennent dans nos laboratoires cognitifs, c'est pas tellement ces compétences qu'on leur crédite, c'est qu'ils apprennent à parler une langue étrangère et à s'articuler à des modes de sensibilité, à des ethos qui ne sont pas les leurs. Et que c'est peut-être ça l'intelligence, finalement, de ces animaux qu'on analyse et qu'on étudie en laboratoire, c'est cette intelligence-là qu'on étudie beaucoup plus que des compétences particulières. Votre problème est encore plus compliqué. Et puis vous le compliquez d'une manière encore plus problématique, et là ça devient tout à fait passionnant, quand vous découvrez le travail d'une anthropologue américaine qui s'appelle Tanya Luhrmann, et qui, parce qu'elle avait de bonnes raisons de se poser la question dans son propre travail auprès de gens qui prient et qui apprennent à entrer en contact avec Dieu, s'est posé la question de savoir, oui, mais tout compte fait, parce qu'elle constatait que les gens qui apprennent à prier dans certaines communautés religieuses, en fait, ne circulent plus sous ces théories de l'intentionnalité, c'est-à-dire ne sont plus convaincus comme nous le sommes que ce que nous pouvons savoir que ce qu'il y a dans la tête des autres est très différent de la nôtre, etc. Et elle a organisé un colloque où elle a demandé à tous ses collègues anthropologues, est-ce que cette compétence de penser que ce que les autres ont dans la tête et toutes ces lectures d'intentionnalité, est-ce que c'est un produit de l'universalité humaine ou bien est-ce qu'il y aurait des variantes culturelles ? Et qu'est-ce qu'on découvre ? Qu'il y a plusieurs cultures qui prétendent qu'on ne peut pas lire dans la tête des autres parce qu'on n'a pas accès, pas seulement parce que ce n'est pas poli, mais parce qu'on ne peut pas savoir. Et quand on leur dit, avec un peu de suspicion bien occidentale, oui, mais enfin, vous-même, vous savez, si vous leur demandez aux autres ce qu'ils ont dans la tête, vous le saurez. Ils répondent ceci. Alors, je parle ici des gens qui ont été étudiés par Joel Robbins en Nouvelle-Guinée-Papouasie, chez les amines de ce pays, c'est une petite province. Eh bien, ils répondent, ah ben non, parce que si vous leur demandez, eux-mêmes ne savent pas ce qu'ils ont dans leur propre tête, parce que le chemin du cœur à la bouche est tellement long qu'il y a plein de choses qui peuvent se passer en route. Et vous découvrez alors que ce qu'on croyait être une compétence universelle de l'être humain, qui était d'ailleurs une compétence qu'on pensait essentielle à la coordination sociale, le fait de savoir ce que les autres ont dans leur tête et le fait de savoir que ce n'est pas la même chose que dans la sienne propre, en fait n'est pas du tout un universel humain. C'est une compétence que les Occidentaux, particulièrement réflexifs, produits de toute une histoire de confession, de religion, de biographie, de journaux intimes, etc., a cultivé. C'est donc un produit historique de la conscience, enfin la conscience étant elle-même un produit historique. Et alors on se dit, alors, quand on dit que les chimpanzés sont comme les humains intentionnels, eh bien on se rend compte que toutes les... Alors ce n'est pas une prémisse qui est problématique, c'est que toutes les prémisses sont problématiques. Ce qui ne veut pas dire que c'est faux, ce qui veut dire simplement qu'on est allé faire un travail de ressemblance qui a peut-être été un peu rapide, en oubliant, alors là je vais citer un autre anthropologue que j'aime beaucoup, que je suis en train de lire pour le moment, qui est Eduardo Cohn, qui écrit un merveilleux livre qui s'appelle « How Forests Think », comment les forêts pensent, et qui dit finalement, qui repart d'une théorie des signes, et qui dit, mais finalement, créer un système de ressemblance, par exemple entre un signe et un autre, c'est apprendre à suspendre son attention aux différences. Et c'est peut-être ça qu'il faut peut-être toujours voir quand on fait des analogies ou des différences entre les hommes et les animaux, c'est sur quelle différence on a fermé les yeux et sur quelle ressemblance on a décidé d'ouvrir particulièrement les yeux.
Alors, cette différence dont vous parlez, d'abord dans notre relation entre nous et les animaux, enfin, et ces deux catégories donc problématiques, elle se pose aussi dans la relation qu'entretiennent les animaux à leur environnement, qui rend aussi inopérante la distinction entre un « eux » et un « nous ».
Tout à fait. Alors là, je pourrais prendre votre question. Je ne sais pas par quel bout vous auriez souhaité que je la prenne, mais ne fût-ce que... Alors, il y a toutes évidemment ces histoires d'inventions culturelles qui montrent que les corbeaux parlent des dialectes différents. Ce qui veut dire, si vous voulez parler corbeau, si vous changez de région, vous allez devoir réapprendre une nouvelle langue. Toutes ces inventions culturelles qui font que si vous parlez des corbeaux, vous allez devoir me dire, par exemple, si vous me dites, tiens, les corbeaux sont-ils ? Sont-ils peureux ou sont-ils braves ? Par exemple, puisque c'est pour certains corbeaux, la bravoure importe, il va falloir demander, mais attention, de quel corbeau parlez-vous? Où est-ce qu'ils vivent? Dans quel contexte? Est-ce que ce sont ceux du Grand Nord dont on sait qu'ils sont assez espiègles et assez préoccupés de démontrer leur bravoure que pour aller mordre la queue du loup en train de faire sa sieste? Ou bien est-ce que vous parlez du corbeau du Maine et du Vermont qui, après des siècles et des siècles de persécution, sont devenus des corbeaux très craintifs? Et donc, on voit aussi que la question de l'éthologie a été pendant très longtemps très très mobilisée par des problèmes de transmission héréditaire, par une lecture darwinienne en termes biologiques, en termes génétiques, etc. Mais que c'est extrêmement plus compliqué, c'est tellement plus compliqué que cela, puisque le fait en effet de vivre dans des contextes et de transformer les contextes, puisque les animaux non seulement vivent dans les contextes mais les transforment, va faire que les généralisations deviennent de plus en plus problématiques.
Vinciane Després, là encore, je rebondis à vous entendre, notamment encore une fois sur les exemples que vous venez de citer. Lorsque vous parlez de capacité, et tout de suite, j'ai pensé à Jacques Rancière sur l'égalité des intelligences. Et que finalement, il y a eu, à un moment donné, où il y a eu des capacités qui ont été recherchées envers certains animaux, et qui n'ont pas été recherchés également sur tous les animaux. Et ça, c'est assez intéressant, parce que quand on cherche une capacité, forcément, on met en retrait une autre capacité. Et vous, à un moment, je crois dans vos ouvrages ou dans des conférences, vous avez mis en avant l'exemple donc, des études qui sont faites avec les chimpanzés. C'est-à-dire, on va chercher une certaine capacité, et puis vous parlez d'une éthologue qui s'est dit, mais ce qui est recherché comme type de dialogue, pour le coup, avec les chimpanzés, si on l'expérimentait avec les moutons, par exemple, peut-être vous pouvez revenir sur cette chose-là, parce que je trouve qu'il y a là quelque chose d'une mise en avant d'une égalité des intelligences, qui n'est pas uniquement une égalité des intelligences entre êtres humains, mais bien une égalité des intelligences homme, animal, vivant, quoi.
Oui, tout à fait. C'est, je veux dire, la façon dont vous présentez les choses me permet de dire ce qu'elle c'est. Donc, Thelma Roell, qui est une primatologue qui est très connue dans le monde anglo-saxon, vraiment une très grosse pointure. Elle était professeure à Berkeley. Ses recherches ont été très, très vite honorées par la communauté scientifique. En fait, ce qu'elle dit, c'est qu'il y a un scandale hiérarchique. Et c'est un terme, normalement, qu'on utilise. Je veux dire, c'est le terme de la dénonciation l'explication justement du scandale de la hiérarchisation des hommes et des animaux. Et elle va le déplacer, elle a un humour formidable, elle sait très bien ce qu'elle est en train de faire, elle va déplacer le scandale hiérarchique en disant, bon, les singes sont considérés comme tellement intelligents, mais est-ce qu'il n'y a pas un scandale hiérarchique là? Et le scandale hiérarchique viendrait de ceci, c'est que, comme ce sont nos proches cousins, et qu'ils fonctionnent bien, hein, quand je parlais tout à l'heure de Matsuzawa disant, mais finalement, ces animaux, ils ont appris un éthos particulier, une langue étrangère, etc. Mais n'empêche que ça fonctionne bien parce qu'on a beaucoup de communautés de problèmes avec les chimpanzés. On a des organes, enfin une organisation physiologique qui est aussi très semblable, une façon de percevoir le monde qui, sans être très semblable, quand même présente des affinités, ne fût-ce que par le fait d'avoir un visage, que par le fait d'avoir une certaine forme de façon de voir, etc. Et donc, on leur a posé facilement des questions qui, pour nous, définissent ce que c'est qu'être intelligent, et surtout des questions aussi qui définissent, puisque c'est aux chimpanzés, notamment, qu'on demandait d'être en quelque sorte le primitif que les, je mettais guillemets, sauvages ne pouvaient plus être, puisqu'on avait découvert qu'ils avaient beaucoup plus de culture que ce qu'on pensait, et donc ils ne pouvaient plus représenter nos ancêtres. Et donc, on leur a posé les questions d'organisation sociale, hein, puisque ce qu'on cherche toujours, c'est, même si c'est pas ça, pas comme ça qu'on le dit, mais on cherche encore l'origine du contrat social, en quelque sorte. Hein. Et donc, on cherche, Freud le faisait aussi, notre thème est tabou. Darwin l'a fait aussi, c'est comment s'organiser les premiers humains. Ben, c'est aux singes qu'on va le demander. Et donc on va leur demander, tiens, mais est-ce que vous êtes capable de vous organiser socialement? Donc ça veut dire, est-ce que vous êtes capable de mentir? Puisque le mensonge témoignant de l'intentionnalité traduit aussi une compétence. D'abord, est-ce que vous avez des amis? Parce que le minimum de l'organisation sociale, c'est de faire la différence entre l'ami, le non familier et l'étranger. Et puis les singes, évidemment, ils ont répondu oui tout de suite. Bien sûr qu'on est capable de faire ça. Et puis, est-ce que vous allez faire des différences dans la manière de vous partager, de collaborer, etc. Et les singes ont répondu avec enthousiasme, oui, bien sûr, nous pouvons faire ça. Et donc, plus on avançait, plus les singes, évidemment, étaient compétents. Et plus ils étaient compétents, ben, plus on leur posait des questions compliquées. Et dit-elle, et qu'est-ce qu'on a posé à bon nombre d'animaux? Et elle prend le mouton qui est le paradigme de la sottise, hein. Je trouve encore aujourd'hui des articles qui ont titre « Les moutons ne sont pas si stupides que ça ». Donc ça veut dire qu'il reste quand même un vieux préjugé. Et qu'est-ce qu'on a demandé aux moutons? Ben le dit très simplement, hein. C'est joli, elle dit, on leur a demandé comment ils convertissent de l'herbe en gigot. Et donc forcément les moutons n'ont pas de compétences sociales en apparence, alors que les chimpanzés ont pratiquement tous les diplômes en matière de socialité. Et elle dit, mais en fait, ce qu'il faudrait faire, si on veut comparer, la comparaison n'est pas impossible, mais si on veut comparer, on doit poser les mêmes questions. On ne doit pas poser des questions différentes aux uns aux autres. Et elle va donc réunir un troupeau de moutons, et elle va les observer, en les observant, en leur posant les mêmes questions que celles qu'on a posées aux chimpanzés, mais en sachant que le mode de réponse ne sera pas exactement le même. Les moutons ne se comportent pas comme des chimpanzés, ils ont une temporalité plus lente, etc. Et elle va également faire quelque chose qui est extrêmement intéressant, c'est qu'elle va analyser la manière dont les articles scientifiques avant elle avaient abouti à la conclusion que les moutons n'avaient pas une socialité sophistiquée. Et elle a constaté qu'en fait, les recherches étaient menées de telle sorte, avec des biais comme toutes les recherches, bien entendu, le mot d'ailleurs ne devrait même pas être utilisé, mais en tout cas, étaient menées de telle sorte à ce que les moutons ne puissent pas répondre positivement à cette question. Par exemple, les chercheurs n'avaient pas beaucoup de temps, pas beaucoup de sous, comme les moutons sont un peu lents, ben, on essayait d'un peu accélérer les choses. Donc, ils achetaient un troupeau, ils se mettaient directement à les observer, mais en fait, ils composaient un troupeau avec des moutons qui ne se connaissaient pas. Donc forcément, les moutons n'avaient pas d'amis dans ce troupeau. Et puis, comme les moutons, en général, je ne sais pas, vous allez voir les moutons, c'est toujours un peu lent, ce n'est pas très actif, etc. On essayait de les observer pendant la période où ils sont le plus actifs, c'est-à-dire la période du rut. Alors là, il y a de la bagarre, il y a de l'ambiance, il y a tout ce qu'il faut, ça bouge. Mais forcément, on s'était fait une idée du mouton qui, d'une certaine manière, ben, faisait un mouton extrêmement agressif, compétitif dans ses interventions. Et donc, ce qu'il fallait faire, c'était les mettre dans des situations où, calmement, ils avaient le temps de faire connaissance et les observer toute l'année.
Poulet. Numéro 728120, poulet de Vendée, élevé en plein air 89 jours et 90 nuits. Parmi 380 autres poulets, alimenté avec 75% de céréales. Décembre 1998, à l'abattoir de Saint-Fulgent, électrocuté, vidé, déplumé, lavé, conditionné, labellisé le poulet. Le 11 décembre 1998, je l'ai acheté 52,55 francs chez le boucher chauve rue de la Bastille. Je l'ai mangé chaud le midi, froid le soir, avec une bouteille de vin rouge. Je l'ai adoré, le poulet. Mon poulet numéro 728 120. Je t'aime. Je pense à toi.
Vous écoutez Radio Grenouille sur le 88.8. Nous sommes avec Vinciane Després, qui est philosophe des sciences et éthologue, et avec nous aussi Nicolas Haringer. Revenons à un instant, si vous le voulez bien, sur cette question du « nous ». Parce que le « nous », d'une certaine manière, il délimite toujours, non, une communauté. À partir du moment où on est plutôt sur la relation, et qu'il y a donc différents types, hein, de relations, qu'en est-il du « nous » ? Comment dire « nous » aujourd'hui, à partir du moment où il est à la fois aussi élargi, c'est-à-dire d'une certaine manière sans limite, et en même temps, dans la mesure où il est aussi à la fois circonstanciel, c'est-à-dire lié à la relation. Alors comment on peut articuler un « nous » aujourd'hui ?
Alors, peut-être que je vais vous demander de préciser votre question. Ce serait un « nous » avec certains animaux, par exemple.
Par exemple, oui.
Alors là, c'est là où je pense que ça, cette conception du nous est en train d'être modifiée, en effet, puisque vous le dites vous-même, ça devient un nous très circonstanciel. Alors les animaux n'ont pas beaucoup d'occasion de dire pas nous. Hein, c'est ce qu'on appelait les panou-panou à un moment donné. La question, c'est de savoir finalement, c'est la question du porte-parole. C'est une double du diplomate, du porte-parole et de la construction. C'est qu'on sait qu'un nous, ça se construit. Si c'est le lieu où moi j'ai le mieux appris ça, c'est en lisant les féministes. La question du nous a été une question mais vibrante et intense et douloureuse pour les féministes quand elles se sont retrouvées notamment avec, dans les années 60, 70, avec l'irruption des féministes américaines noires, qui disait, vous dites nous pour nous toutes, mais pendant que vos mères subissaient ou vos grands-mères subissaient le joug de leur mari, nos propres grands-mères subissaient le joug de vos grands-pères, de vos grands-mères, de votre famille, etc. Et comment est-ce qu'on constitue un nous avec ça ? Et c'est pas évident du tout. Alors, donc, la question du nous, c'est une question d'une construction qui est risquée, qui est périlleuse, qui est souvent soumise à l'échec. Et qui est toujours à reprendre. Et c'est ça qui m'intéresse.
Mais est-ce qu'elle est aussi, du coup, stratégique ?
Ah, je pense qu'elle est... En tout cas, elle peut demander de la ruse, au sens où les Grecs l'utilisaient, c'est-à-dire, il y a des moments où un peu de ruse, c'est une question pragmatique, oui. Stratégique dans le sens pragmatique du terme, c'est-à-dire une question dont on évalue les conséquences que peuvent avoir non seulement la manière de la poser, mais les réponses qu'on va pouvoir apporter à cette question une fois qu'elle est posée. Et donc poser la question du nous, c'est-à-dire poser qui fait nous, c'est une question en effet qui est une question stratégique et qui est une question qui est extrêmement risquée. Alors avec les animaux, c'est ça qu'on dit souvent, hein, c'est d'ailleurs une des thèses de Tristan Garcia quand il avait écrit son livre sur Bentham, c'était de dire que finalement, peut-être que des gens se rabattent sur les causes des animaux. Alors je vais aller un peu vite et j'espère qu'il me pardonnera, parce que les animaux ne sont pas décevants. Et c'est ça, il y a quelque chose de très juste dans ce qu'il dit. Je ne suis pas du tout d'accord avec beaucoup d'autres choses de Tristan Garcia dans son livre, mais là je trouve qu'il y a quelque chose d'assez juste, en tout cas de faire ce constat, c'est qu'on constate que quand on veut partir en cause, par exemple pour des mouvements ouvriers ou pour des victimes humaines, à un moment donné, vos victimes, elles vont vous échapper. Et elles ne vont pas rester de parfaites victimes. Elles ne vont pas être, comme dirait Donna Haraway, innocentes. Et par exemple, si vous prenez des victimes et que vous dites, bon, ben, on va aider à l'émancipation, on va aider plus de justice, etc. Et puis que les victimes vous disent, ben, nous, ce qu'on veut, c'est une TV et un chalet. C'est un bungalow au bord de la mer. Bon, la victime, ça fait, elle est plus propre. Comme si la victime n'avait pas le droit elle-même au désordre. Donc, disait Tristan Garcia, finalement, les victimes sont toujours décevantes parce qu'à un moment ou l'autre, elles ne sont plus les bonnes victimes. Alors qu'avec les animaux, ben, d'une certaine manière, disait-il, ben, les animaux, ils ne se rebellent pas, ils ne se rebiffent pas, ils ne vont pas dire à un moment donné, ah ben non, 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 vous n'avez plus à parler pour nous, maintenant nous, on sait ce qu'on veut.
En même temps, Donna Haraway, que vous venez d'évoquer, elle explique à quel point, par exemple, travailler au dressage avec sa chienne, ça l'a transformée, elle, et peut-être presque plus que son chien. Donc il y a quand même quelque chose, alors c'est pas forcément une rébellion, mais il y a quelque chose qui se joue, qui n'est pas du tout confortable.
Alors oui, mais on n'est plus on n'est pas du tout ici dans un dispositif où il y a une victime et quelqu'un qui prétend le sauver. Et c'est là aussi où, voilà, justement, le nous, ici, n'est plus du tout le même. Mmh. Et que les animaux soient capables de résister à ce qu'on leur propose, ça, j'en ai une conviction. Alors non, pas total, parce que de nouveau, ce serait faire une généralisation. Les moutons, par exemple, si on prend un exemple de nouveau, puisqu'on a évoqué celui-là, ont des capacités de résistance qui sont très faibles. Ça fait partie, d'une certaine manière, de la manière de s'organiser des moutons, c'est que leurs capacités de protester, dirait Thelma Roel, sont extrêmement limitées. Et donc, les moutons résistent mal. Et faire un nous avec les moutons, c'est un autre travail que celui de faire un nous avec un chien, par exemple, dans une relation qui va incorporer l'agilité, par exemple, les séances d'agilité. Et donc, ce que Tristan Garcia disait à propos des victimes, bon, c'était assez amusant, etc. Et il est vrai que les animaux, d'une certaine manière, ne peuvent pas se passer de porte-parole et que la question de la trahison va tout le temps se poser.
Oui, parce qu'au final, quand même, les animaux échappent hein, à la position de victime auquel on voudrait d'une certaine manière bon, parfois les enfermer, puisque les animaux se mangent entre eux. Il y a de la cruauté aussi chez les animaux.
Alors là, je pense que vous le faites avec un gentil sourire. Donc je n'ai aucune confiance en ce que vous venez de me proposer, je vous le dis. On sait très bien qu'on n'est pas du tout dans le même registre. Hein, on sait très bien qu'on n'est pas du tout dans le même registre, que le mot cruauté, c'est un mot que nous appliquons à des choses à la rigueur qui peuvent heurter nos sensibilités. Mais on n'est pas dans des rapports de pouvoir ici. Alors que ce que nous décrivons dans le rapport que nous avons avec les animaux, ce sont des rapports de pouvoir. Donc je ne parle pas, par exemple, d'un chasseur amérindien. Ça, c'est l'exemple type, je sais que c'est un peu tarte à la crème, mais bon, bref, laissez-le moi parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Je ne parle pas donc, par exemple, du rapport qui s'établit entre un chasseur amérindien qu'il va tuer sa proie, peut-être, ou peut-être pas, ou peut-être que c'est lui-même qui se fera tuer, et une entreprise avec 4000 cochons. Là, on n'est pas du tout dans les mêmes rapports de pouvoir et d'exploitation. Et c'est là où ça devient sordide, c'est quand on est dans un rapport d'exploitation. Donc moi, je n'ai pas beaucoup travaillé sur les animaux victimes, parce que ce ne sont pas avec ceux-là que mes envies, c'est pas une question d'envie, c'est que moi ce qui m'intéressait c'était plutôt d'analyser les transformations positives qui ouvrent des possibles. Et donc les animaux victimes, j'ai laissé cela à d'autres collègues qui heureusement sont là, j'ai laissé cela à Jocelyne Porcher notamment qui s'est beaucoup préoccupée du sort des animaux d'élevage parce que je voulais suivre une autre voie qui me semble complémentaire à la sienne. Par contre, là où les animaux résistent, c'est vrai que c'est extrêmement intéressant. Alors, on peut prendre le cas de la chienne Cayenne de Donna Haraway, c'est de cette très, très, très belle analyse dans When Species Meet. Mais on peut aussi prendre quelque chose de très joli. Alors là, je reviendrai aux travaux de Jocelyne Porcher sur les animaux d'élevage, quand Jocelyne Porcher fait la proposition de dire que les animaux d'élevage travaillent et collaborent au travail, non pas dans ces espèces de production animale que sont les élevages industriels, mais dans des plus petites entités. Et elle dit, mais seulement, en fait, on ne voit pas que les animaux travaillent. Pourquoi ? Parce que, et ça, le travail ménager, pour être une bonne analogie à cela, c'est que la plupart des femmes qui tiennent leur foyer diront, en fait, moi, on voit que j'ai travaillé quand je ne le fais pas. Mais tout est toujours propre, comme s'il n'y avait rien qui s'était passé. Bien, les animaux d'élevage vont se trouver dans cette perspective, cette analogie que je fais, vont se trouver qu'en fait, on a l'impression que tout se fait machinalement. Et Jocelyne va s'attacher à observer, caméra au point, la manière dont les animaux d'élevage, par moment, résistent au fait de faire ce qu'on attend d'eux. Et elle va constater qu'il y a de la résistance et que cette résistance montre que les animaux d'élevage ont très bien compris ce qu'on attendait d'eux, aider l'éleveur se bouger pour pouvoir mettre de la paille, aller tranquillement au robot de traite, aller là où on leur demande, etc. Mais qu'on ne le voit pas parce que ça a l'air machinal, mais qu'on, si on s'attache à regarder les moments où ça ne fonctionne pas, où ils refusent, où ils récalcitrent, où ils résistent, on se rend compte qu'il faut... Dans la mauvaise volonté, on voit apparaître par contraste toute la bonne volonté qui est impliquée là-dedans. Et je crois qu'il faut garder les deux pôles. C'est que si on dit que les animaux sont capables de résister, à ce moment-là, on doit se dire en même temps quelque chose qui est moins évident à dire, que les animaux font quantité de choses pour nous aider, pour collaborer dans nos projets, pour s'y articuler pour des raisons qui sont les leurs.
On peut peut-être tirer un tout petit peu plus, un petit peu plus loin le fil de cette analogie entre le travail reproductif ou domestique d'un côté et ce que font les animaux, et notamment autour d'une tribune, je ne sais pas si vous l'avez vu, de Béatrice Preciado dans Libération il y a quelques semaines, qui disait « Au fond, le féminisme n'est pas un humanisme, l'animalisme est un féminisme ». Et l'animalisme est un féminisme étendu et donc qui fait un, voilà, qui dit l'humanisme, c'est précisément la réduction des machines vivantes, humaines en l'occurrence femmes et plus souvent noires que blanches ou animales, à l'état donc de machines et de biens de production, et donc il fallait créer l'humanité comme espèce à part pour la distinguer de ces machines vivantes. Donc elle se pose en faux par rapport à ça. Or, on retrouve effectivement chez beaucoup de philosophes des sciences qui travaillent sur ces relations entre hommes et animal, donc Donna Haraway, vous, Isabelle Stengers, etc., un féminisme radical aussi.
Alors là, je pense que, et Béatrice, je pense en fait, que dont j'admire profondément le travail, qui a fait des choses vraiment extraordinaires et qui a une liberté, quand elle pense, une liberté créatrice qui est absolument fabuleuse. Le féminisme est associé, je pense, notamment à la défense de l'animal. Alors, il y a des raisons historiques à cela. Hein, le 19e siècle, ce sont des raisons historiques particulières. C'est le sentiment pour les femmes d'une communauté de destin avec les animaux, avec un ennemi commun, ou en tout cas un tortionnaire commun. Le corps des femmes et la ce qu'on faisait subir au corps des femmes et la vivisection n'était pas du tout étrangère. C'était souvent... Enfin, Claude Bernard était le premier à être stigmatisé dans cette affaire. Donc, historiquement, il y a des alliances qui se sont créées et qui ne sont pas des alliances fondées comme une pensée un peu bébête que vous n'avez pas... mais je sais que ça vient souvent sur l'idée d'une sensibilité féminine, etc., etc. Non, c'était des positions historiques bien constituées. Au XXe siècle, ce qu'on peut voir aussi, c'est que par exemple, si vous observez un peu les prises de position par rapport, par exemple, au problème du climat, au problème de l'anthropocène, etc., ce que les féministes font, c'est en fait dire « Vous ne pouvez pas uniquement vous focaliser sur un problème parce que ce problème a des ramifications dans tellement d'autres problèmes que cela va soulever, susciter ou qui en sont la conséquence, etc. que vous devez aussi prendre en considération ces problèmes. » Et le féminisme, il me semble que le féminisme radical, on est dans cette perspective-là, c'est-à-dire de prendre beaucoup, non pas toutes, mais de prendre des dimensions du problème qui sont associées à un problème où on dit non, il y a quelque chose qui ne va pas ici.
Et c'est pas effectivement pas de l'essentialisme, mais en revanche, s'interroger sur la relation entre les humains et les animaux aide aussi à remettre en cause ces fondements-là, quoi.
Ça aide à remettre en cause pour diverses raisons. D'abord parce que c'est une décolonisation de la pensée, et ça de toute façon. Et alors là, c'est plutôt... Moi, je vais partir dans les trucs qui m'intéressent pour le moment. C'est cette forme d'écologie des sentiers. C'est-à-dire, qu'est-ce que ce monde a besoin quel type de sensibilité ce monde a-t-il besoin? Voilà, quel type de sensibilité va nous aider à agir, à créer des collectifs, à avoir du courage, à ne pas se désespérer, etc. Et je pense par exemple à ça, par ce livre d'Eduardo Cohn dont je parlais tout à l'heure, How Forests Think. Il dit vraiment quelque chose de très joli. Il dit, comme anthropologue, je vais étudier comment les forêts pensent. Alors vous pourriez penser, comme anthropologue, je ne dois pas étudier comment les forêts pensent, je dois étudier comment les gens pensent que les forêts pensent. Et il va donner une réponse fabuleuse. Il va dire, mais si je veux bien, moi, étudier comment les gens pensent que les forêts pensent. Mais le problème, c'est que si les gens pensent que les forêts pensent, c'est parce que les forêts pensent. Ce qui n'est pas du tout une réponse typique de l'anthropologie, qui a d'habitude l'habitude de biffer ces objets. Et il dit, pourquoi je voudrais faire ça? Parce que je pense que si nous commençons à penser comment les forêts pensent et à penser avec les forêts, nous allons modifier nos manières habituelles de penser. Et il me semble que les questions que les animaux peuvent nous poser, les manières dont nous pouvons essayer de commencer à penser avec eux, sont des choses qui pourraient modifier nos manières d'être au monde et de nous attacher à ce monde. Et ça, je crois que les féministes l'ont bien compris.
Dans ce livre, Vinciane Després, que vous avez coécrit donc avec Isabelle Stengers, « Les faiseuses d'histoire que font les femmes à la pensée », il y a ce passage, prise de relais, point d'interrogation, et vous écrivez ceci, « Il fallait réactiver l'histoire des femmes qui ont posé la question d'une science différente, afin d'affirmer que ce n'était pas un rêve épistémologique, qu'elles ont eu à affronter un véritable dilemme. » Affirmer donc que l'histoire des femmes ont posé la question d'une science différente.
Mmh. Alors, ça s'est posé dans beaucoup de domaines scientifiques. Hein. Ça, c'est au départ, par exemple, de constat. Hein. On peut partir de volonté de féministe ou de constat. C'est de constater, par exemple, puisque ça, c'est le domaine que je connais le mieux, que quand les primatologues femmes sont arrivées sur le terrain dans les années 60, entre les années 62-63, et particulièrement avec une transformation remarquable entre 63-64 et début des années 70, c'est qu'on constate qu'elles ne vont pas observer la même chose que ce que leurs collègues masculins observaient, qu'elles vont rapporter d'autres théories, d'autres propositions et des comportements qu'on n'avait pas vus jusque-là et des propositions théoriques sur les manières de s'organiser des babouins qui n'étaient pas du tout les mêmes que ce que leurs collègues masculins avaient proposé. Et donc certaines, et à l'issue de cela, il y a tout un courant de recherche qui s'est constitué. Est-ce que ça voudrait dire que les femmes observent différemment ou plus généralement, est-ce que les femmes font de la science autrement? Alors, ce qui vaut pour la primatologie ne vaudrait pas, évidemment, ni pour la physique, ni pour les mathématiques, non pas que ce sont des sciences à part, mais simplement, je tiens à souligner que chaque science mérite sa propre réponse. Ça ne vaudra pas non plus pour l'archéologie, ça ne vaudra pas, etc. Non pas que les femmes n'y aient rien changé, en archéologie, il y a eu aussi des modifications. Alors, du côté des primates, ce qu'on a pu constater, c'est qu'en fait, il y a eu deux réponses à ça. Une réponse que certaines femmes ont dit, surtout ne revendiquons pas le fait que nous faisons une autre science en tant que femme, c'est-à-dire une science plus douce, mieux connectée au problème, plus à l'écoute des animaux, plus sensible, etc., etc. Parce que si nous faisons cela, nous allons essayer de faire passer des caractéristiques et des critères de science sur contre lesquels justement la science s'est fondée. Et donc, au lieu de transformer la science, tout ce que nous allons gagner, c'est de nous faire rejeter comme mauvais scientifiques, comme sensibles, comme scientifiques romantiques, etc. Et elles ont fait le choix, comme par exemple, il y a une mathématicienne qui a fait le choix de modifier la manière dont les pratiques de terrain se faisaient, mais en ne montrant jamais que c'était au nom de questions féministes. Je pense à Jean Altman qui dit à un moment donné aux chercheurs dans les années 60, qu'elle accompagne les chercheurs primatologues, elle dit « Vos manières de faire statistiques, ça ne va pas du tout. Vous ne pouvez pas prétendre affirmer ce que vous affirmez au départ des échantillons que vous avez constitués. Vous devez faire autrement vos échantillons. Et vous devez, par exemple, observer les femelles le même nombre de temps que les mâles, même si vous avez l'impression qu'elles ne font rien. » Et en fait, c'est une idée féministe chez Jean Altman. Elle veut qu'on s'intéresse aux femelles parce qu'elle est persuadée qu'on découvrira des choses et que le fait même de s'intéresser aux femelles va modifier des choses. Mais elle va pas dire qu'elle fait ça au nom d'une idée féministe, elle va dire ça au nom d'une idée de mathématicienne. C'est un premier choix. L'autre choix était de certaines comme Linda Fedigan, qui est une primatologue, qui dira « Nous devons revendiquer le fait de faire de la meilleure science » avec un type de science non pas machiste mais féminine, parce que c'est la seule chance que nous aurions de modifier les sciences et d'obtenir des sciences un peu plus intéressantes. C'est un choix que certaines ont voulu faire et qui est un choix risqué. Et donc les deux choix avaient à la fois leur propre risque et leur propre coût.
Mais au fond, n'est-ce pas simplement rappeler qu'un chercheur ou une chercheuse, ça s'incarne dans un corps et ça s'incarne dans une histoire. Et donc en fonction de l'histoire des uns et des autres, on revient au mot de question, on ne pose pas les mêmes questions. Alors, en fonction de sa vie, la vie des uns et des autres, on ne pose pas les mêmes questions. Et que, comme jusqu'à présent, les femmes n'avaient pas la possibilité, disons, de poser des questions et de poser des questions scientifiques, elles sont arrivées avec des questions nouvelles.
Alors, ce n'est pas tellement qu'elles sont arrivées avec des questions nouvelles, en fait, dans le cas de figure des primatologues, hein, parce que c'est possible aussi. Elles sont arrivées avec deux choses. Elles sont arrivées avec le fait qu'elles sont restées beaucoup plus longtemps sur le terrain, et donc elles ont vu d'autres choses et qu'elles ont pratiqué l'habituation. Et si elles sont restées beaucoup plus longtemps sur le terrain, ça c'est une position historique très particulière, c'est que dans les années 60, postulées à l'université contre un homme, elles avaient peu de chances d'avoir le poste. poste. Donc, elle restait faire des recherches sur les terrains, alors que les hommes, une fois qu'ils avaient l'occasion de postuler, c'est quand même plus confortable d'avoir une chaire à l'université que de récolter des bourses péniblement tous les deux ans. Donc, quand vous dites que la science s'incarne, et s'incarne dans une histoire, vous avez parfaitement raison. Elle s'incarne dans des corps et elle s'incarne dans des histoires qui créent des positions, qui sont tributaires de positions historiques situées. Ne pas pouvoir avoir d'emploi, par exemple, c'est une position historique située. La deuxième chose, par exemple, que je constate chez ces primatologues, c'est qu'elles avaient énormément de suspicions par rapport à certaines théories. Par exemple, la théorie de la hiérarchie, elles trouvaient que ça, c'était suspect, parce qu'elles disaient, c'est quand même une histoire de mec. Enfin, elles ne disaient pas comme ça, mais bon, je vais éviter ici. C'est une histoire de mec. Donc, il y a des certaines formes suspicieuses qui ne sont pas dues au fait qu'elles sont femmes en tant que femmes, mais qui sont faites autant en tant qu'elles sont femmes dans une position historique particulière qui est une position de subordonnée. Et donc, c'est ça qui est intéressant, c'est que finalement, quand vous dites elle s'incarne dans une histoire, tout à fait. Mais c'est vrai aussi qu'on constate que les femmes, par exemple, le rapport, quand une femme doit faire de l'habituation aux animaux, beaucoup de primatologues vous diront que les femmes, le travail est facilité, on ne sait pas pourquoi, mais visiblement, il y a une incarnation qui fait qu'une habituation chez un homme prendra X temps, eh bien, vous faites X moins X moins Y pour définir le temps que prendra une femme. Et je viens encore de lire des articles scientifiques tout récents, qui datent d'il y a 2-3 mois d'ici, qui montre que le fait que les observations aient été menées par des femmes avaient modifié, avaient facilité certaines réponses des animaux.
Restons un instant sur l'histoire. Pour nous, aujourd'hui, les animaux n'ont pas d'histoire.
Ils commencent à en avoir une. Il y a maintenant, alors j'ai une archéologie des chimpanzés. Il y a maintenant une vraie archéologie qui s'intéresse aux outils des chimpanzés. Donc ça veut dire qu'on est en train de vraiment de leur créer une histoire. Alors il y a une histoire, mais alors de type. Alors bon, je vais dire, on se rappelle que les tribus qu'on observait à une certaine époque, les glorieuses époques coloniales de l'anthropologie, on parlait quand même de sociétés sans histoire aussi. Et donc le parallélisme ne doit pas être fait trop facilement, mais on est aussi dans cette perspective comme si ce sont des êtres qui ne bougeaient pas, parce que l'écriture serait la totalité de l'histoire. Donc maintenant, on est en train de commencer à considérer qu'ils ont une histoire autre que l'histoire longue de l'évolution, donc une histoire culturelle. Et on est en train de penser que cette histoire a probablement été extrêmement compliquée, mais qu'on n'y a pas beaucoup d'accès parce que la culture matérielle est ce qui nous permet à nous, d'une certaine manière, de stabiliser l'idée d'une histoire.
Et cette histoire qui va se faire va sans doute remettre en révolution notre propre histoire, hein, puisque forcément l'histoire des animaux, c'est une histoire de la relation entre les hommes et les animaux. On arrive là un peu au terme de cette émission. On pourrait peut-être, Nicolas, si tu le veux, aborder une tribune dernièrement que vous avez rédigée dans Libération sur les loups.
Sur le loup, oui. On va du coup reparler un peu à la fois diplomatie, porte-parole, mais peut-être aussi histoire, puisque donc le propre de cette tribune, c'est en gros de plaider pour prendre en compte les revendications des éleveurs et des pasteurs donc dans les Alpes face à un loup. Et là où on remet peut-être de l'histoire, c'est que vous mettez en évidence dans cette tribune que le loup n'est pas le même en France qu'aux États-Unis, par exemple. C'est-à-dire qu'en France, c'est les mots que vous employez dans cette tribune, il est opportuniste, alors qu'aux États-Unis, il ne l'est pas. Donc là, il y a effectivement quelque chose qui a une sorte de fil historique qui aboutit sur une situation différente.
Tout à fait. Donc moi, j'ai simplement soutenu cette tribune, donc je n'en suis pas du tout l'auteur ou quoi que ce soit, mais j'ai décidé de soutenir cette tribune, notamment parce que je travaille pour le moment avec Michel Meuret sur des interviews de bergers, et je vois à quel point il y a des pratiques qui sont d'une richesse, je vais dire, c'est l'écologie, c'est ça aussi. Ce sont des pratiques humaines, ce sont des pratiques, de vie en commun avec la montagne, avec les moutons, etc. Et que donc moi, il me paraissait nécessaire de soutenir ces bergers. Alors la question, en effet, c'est que c'est là où on entre en effet dans des conditions où les loups, ça c'est vraiment, on fait entrer les loups en politique. Ils y étaient déjà bien entrés il y a depuis quelques temps et ils n'ont jamais été aussi bien entrés en politique que ces dernières années, puisque maintenant, en effet, non seulement ils sont pris à partir dans des controverses politiques dont ils deviennent sujets pratiquement, mais en plus maintenant ils commencent, du fait d'être dans des controverses politiques, le résultat aussi, c'est, et ça on le sait depuis quelques années, c'est que le fait d'être entré en politique pour le loup a modifié son comportement. Et donc, en effet, le fait que le loup se comporte en France différemment des États-Unis, c'est pas seulement une affaire de le contexte n'est pas le même, les opportunités du monde ne sont pas les mêmes, etc., etc. C'est aussi le fait que le régime même de protection modifie le comportement et fait que, d'une certaine manière, le fait d'entrer en politique le fait encore plus entrer en politique, ce loup.
Alors si la différence humain-animal n'est plus l'enjeu, vous reposez des enjeux de différence qui est différence humain-animal à Clermont-Ferrand, par exemple, de différence humain-animal à Weston, quoi, par exemple. C'est-à-dire que les différences se rejouent dans des relations. Et ça, c'est assez fascinant parce que, d'une certaine manière, vous nous invitez toujours à penser à deux termes à la fois. Mmh. C'est-à-dire de toujours penser deux ensemble, de tenir toujours deux termes à la fois, de ne jamais penser une seule chose toute seule. C'est une vraie révolution d'esprit, ça.
Alors, je ne dirais pas que en tout cas, cette révolution, je pense qu'elle est, si j'ai pu, en effet, me laisser inspirer par cette manière de penser les choses, je pense que ça vient de chez Bruno Latour, ça vient d'Isabelle Stengard, mais ça vient aussi de William James. Hein, ça, c'est un auteur extrêmement important pour nous tous et pour moi aussi. C'est en effet de... Alors, il y a deux raisons à ça. Il y en a 10 000. C'est d'abord une certaine conception, alors, pour dire très vite, de nature-culture. C'est en effet... C'est impensable de penser le loup sans penser les humains avec lesquels il cohabite. Il y a aussi une certaine volonté qui était... Alors là, je parle des années 90. Quand on a commencé à travailler, quand j'ai commencé à travailler sur les animaux, enfin, je m'intéressais aux scientifiques avec les animaux, le domaine était encore, d'une certaine manière, extrêmement monopolisé par l'anthropologie symbolique d'un côté ou des scientifiques éthologistes pur jus de l'autre côté, ou des philosophes, etc., du symbolique. Et donc, ça veut dire, soit on parlait des représentations que l'homme a de l'animal, soit on parlait de l'animal tel qu'il est en lui-même, indépendamment de l'être humain, qui était le rêve un peu positiviste et scientiste. Et moi, je me trouvais là-dedans et je me suis dit, ah non, ni l'un ni l'autre, parce que l'anthropologie symbolique biffait complètement la présence de l'animal. Ça aurait été des machines à lessive, enfin, j'exagère, mais enfin, peu importe, l'objet n'avait aucune importance, n'affectait pas du tout. Et je ne voulais pas non plus imaginer un seul instant qu'il était possible de penser qu'on pouvait étudier l'animal tel qu'en lui-même. Ça n'a pour moi aucun sens, même. Comment est-il le poisson quand vous ne l'observez pas, ben, vous mettez une caméra, vous l'observez quand même, quoi. Il ne faut pas exagérer. Et donc, pour moi, c'était cet effort-là, et qui était à l'époque un effort assez polémique, parce que ce n'était pas évident de dire, par exemple, à des anthropologues symboliques, non, ça ne m'intéresse pas, les représentations. Le mot « représentation » lui-même, soit on l'utilise politiquement, soit on oublie, parce que c'est toujours une façon de faire penser que les autres ont des croyances.
Vinciane Després, merci beaucoup d'avoir accepté cet entretien. Je rappelle que vous êtes philosophe des sciences et éthologue, et quelques ouvrages donc publiés, dont notamment ce livre avec Isabelle Stengers, les faiseuses d'histoire que font les femmes à la pensée, c'est aux éditions La Découverte. Et puis Que diraient les animaux si on leur posait les bonnes questions, paru aux éditions La Découverte, et Les empêcheurs de penser en rond. Il y a aussi un livre, Ces émotions qui nous fabriquent. On n'a pas beaucoup parlé de cela, peut-être une autre fois lorsque vous reviendrez à Marseille, volontiers sur les ondes de Radio Grenouille. Donc, Ces émotions qui nous fabriquent, ethnopsychologie de l'authenticité, paru aux éditions Les empêcheurs de penser en rond. Merci beaucoup, Nicolas Haringer, d'avoir participé à cette émission. Une émission réalisée par Sébastien et à retrouver en podcast sur le site de Radio Grenouille, www.radiogrenouille.com.
Merci.